Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Ning Li. Bonjour Ning.
Bonjour, je suis Fred.
Bonjour, alors tu es un entrepreneur multirécidiviste et à succès. Ce que tu aimes, toi, c'est disrupter les marchés, c'est bousculer ce qui existe, passer tout en digital, en ligne, le rendre plus accessible. Tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007, puis tu as bouleversé le marché du meuble en ligne en fondant Made.com en 2009. Ces expériences ont été des succès fulgurants. Ce que tu as appris de chacune d'elles, tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui qui s'appelle Typologie, qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va parcourir un petit peu tout ce que tu as fait, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens, la manière avec laquelle tu prends tes décisions, ce que tu apprends sur la route et ce qui peut-être peut servir un petit peu à tout le monde. Donc, on explorera tout ça avec Stéphanie qui viendra nous montrer certains passages pour les illustrer et poser certaines questions. Et donc, on va commencer bien tout de suite. Alors, tu as grandi à Foshan, en Chine, dans le sud de la Chine.
Tout à fait.
Tu peux nous parler un petit peu, justement, de cette enfance en Chine.
Oui, je suis né en Chine et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé en France dans une pension. Et donc, mes parents sont les gens de classe moyenne, normaux. Donc, mon père travaillait d'abord dans l'armée de libération chinoise. Et ensuite, il s'est converti dans le civil, donc pour maire d'une petite ville dans le sud de la Chine. Et puis, ma mère faisait du service social dans la mairie. Et donc, j'étais baigné dans cette famille dans une région de Canton, en fait, qui a toujours beaucoup exporté les enfants à l'étranger. Donc,
c'est une famille c'est les AK,
c'est,
tu as dit.
Oui, alors c'est des AK, mais qui vivaient à Canton, parce que les AK n'ont pas de leur propre ville. Alors
justement, on a une photo de maison AK, ici. Explique-nous ce que c'est que ces maisons-là et comment ça fonctionne.
Alors, les AK, c'est une ethnie de peuples en Chine qui n'ont pas leur propre terre, parce qu'ils ont été chassés du nord de la Chine jusqu'au partout en Chine. Et comme ce sont les gens qui n'ont pas leur propre terre, souvent quand ils s'installent dans une ville, ils vivent en communauté, en famille, et ils sont souvent attaqués. Donc, ils se sont, dans le passé, hein, ils se sont sentis obligés de se protéger. Donc, ils ont construit cette énorme maison, qui sont plutôt les forteresses, où ils vivaient entre eux.
C'est un peu comme un château fort, en fait.
C'est ça.
Mais en même temps, un hôtel, parce que tout le monde habite dedans. En fait.
Tout
c'est
le
un
monde
village.
Habite là-dedans.
C'est une maison-village.
C'est la AK, oui.
En 98, tu pars pour venir étudier et passer un bac en France. Donc, tu as 16 ans quand tu arrives en France. Est-ce que tu peux nous raconter ce départ et cette arrivée?
Alors, donc, à l'âge de 16 ans, comme beaucoup d'enfants de ma région en Canton, les parents envoyaient ceux qui peuvent, en tout cas, envoyer les enfants à l'étranger. Et pour nous, c'était la France, parce qu'il y avait ma tante qui connaissait l'interprète d'une école privée, qui a fait un voyage en Chine et qui a connu ma tante et qui m'a connu par chance. Donc, ce directeur d'école qui m'a ramené en France, en Normandie, à l'âge de 16 ans, je suis venu donc en tant que premier membre de ma famille qui a mis ses pieds en France.
Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que personne de ta famille n'était jamais venu en France. Et toi, tu es venu à 16 ans pour y étudier.
Pour y vivre finalement jusqu'à présent. Et donc, mes parents avaient très peur que je décrochais à l'école puisque je ne parlais pas encore le français. Donc, ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois dans les bagages en soute de mon avion.
Comment ils ont fait pour mettre 200 kilos? Enfin, c'est pas toi qui les portais?
Je crois que mon père a dû donner un petit billet au bagagiste pour ne pas payer une somme folle qui aurait coûté ses bagages.
Donc, je rappelle que quand même, tu ne parlais pas le français 2 ans avant. Après le bac, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand. quand même un des meilleurs lycées de France. Ensuite, à cette prépa, tu intègres HEC Paris. Et ensuite, tu fais des stages au BCG, puis chez Rothschild. Tu te voyais faire carrière. Alors là, tu étais parti, justement, tu te voyais faire carrière dans ce domaine-là, dans le conseil ou dans la finance. Là, on te voit ouais. ta cérémonie de graduation de HEC, justement, avec un chapeau carré.
Bah, en fait, moi, je suis enfant d'une famille, fils unique d'une famille chinoise de mon époque. Et je suis, comme le système de sécurité sociale est assez faible en Chine, il n'y a pas vraiment de pension pour mes parents. Donc moi, je suis un peu la sécurité sociale de mes parents. Donc les attentes d'une famille chinoise, surtout quand tu es un fils, c'est que toi, tu payes un peu les retraites de tes parents. Et j'avais cette énorme pression quand je suis arrivé en France de, un, pouvoir déjà réussir à m'installer en France, trouver un boulot, mais surtout pouvoir les payer leur pension quand ils sont à la retraite.
D'accord. Tu avais une date à partir de laquelle il fallait que tu renvoies quelque chose.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est une pression morale plutôt que financière, mais néanmoins, c'est une énorme pression. Donc, mon objectif quand j'ai intégré à HEC, c'est de trouver le boulot le mieux payé quand je serai sorti de l'école. Et c'était à ce moment-là les banques et le conseil.
Alors, tu fais pas que des banques et du conseil, puisque tu deviens l'assistant de Marc Simoncini chez Mythic. Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise ? Là, on te voit donc justement dans l'équipe avec Marc.
Oui, alors donc en fait à HEC, j'ai fait un programme qui est HEC Entrepreneur, où je devais faire un stage un peu de bras droit, et j'avais beaucoup de chance, c'est que je me suis retrouvé auprès de Marc pour ce stage bras droit au moment de l'IPO de Mythic. Donc, Mythic avait levé beaucoup d'argent à l'IPO, il devait faire des acquisitions.
Entrer
en bourse, etc. Et moi, j'avais fini mon stage chez Rothschild. Donc, j'ai dit à Marc, finalement, au lieu de payer des banquiers des millions d'argent, paye-moi mon stage, le salaire d'un stagiaire et je te fais les petits modèles en interne. C'était un peu comme ça.
Et donc, justement, en 2007, tu poursuis, tes études sont terminées, ton stage aussi chez Mythic. Et là, tu lances avec Stéphane Sedbon ta première boîte, MyFab. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, au-delà du fait que Marc t'a dit, bon, en gros, il t'a montré que c'était possible de créer une boîte et que c'était même souhaitable. Pourquoi MyFab ? Pourquoi à ce moment-là ?
Donc, Marc m'a dit, qui tente rien n'a rien. Donc, je me suis lancé. j'ai dit à Marc, finalement, je vais lancer ma propre boîte. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été... Il y avait, bien sûr, tu connais les banques privées.
Oui. Voilà.
Donc, je pense que banques privées étaient spécialisées sur le secteur du textile, mais ils ne vendaient pas vraiment au-delà de textile, enfin, fashion, les marques, d'autres marques, d'autres verticaux. Et avec Stéphane, que j'ai connu à mon stage chez Rothschild, on s'est dit, probablement, il y a aussi une opportunité à utiliser la mécanique de vent flash à appliquer sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on avait pour projet de créer un site qui s'appelait MyFab, mais qui vendait avec la mécanique de vent flash, c'est-à-dire une offre de discount pendant 3-5 jours, mais très attractif, moins 50%, pour un lot de, je sais pas, baby foot, vélo, chemise, montre, mais vraiment de tout. Et on vendait déjà un peu de la déco, des coussins, des choses déjà à ce moment-là.
Donc c'est vraiment le modèle de la vente flash sur Internet qui a tous ces attraits-là. Mmh. Et donc, en à peine 2 ans, vous employez quand même 180 personnes entre la France et la Chine. Donc là, c'est vraiment de la très forte hypercroissance, hein, passer de 2 à 180 en 2 ans. Comment tu as vécu cette période-là ? Qu'est-ce que tu as appris sur cette hypercroissance-là ?
Je sortais de l'école à ce moment-là, donc je connaissais vraiment pas grand-chose. Stéphane, il avait 8 ans de plus que moi, donc il avait beaucoup plus d'expérience. Il manageait la partie levée de fonds, investisseurs. Ce dont je me rappelais, c'est qu'on avait passé, c'était en 2007, où il n'y avait vraiment pas beaucoup de VC ou d'argent sur la place. Et on avait fait 100 rendez-vous pour enfin lever auprès de 5 personnes une tour de table de 2 millions pour lancer l'activité. Et ça nous a pris vraiment un an. Et après, à partir de ça, on s'est un peu réparti le travail. C'est moi qui manageais un peu les opérations internes et Stéphane s'occupait de toute la partie investisseur, etc. Et l'aventure est arrivée assez vite et le démarrage assez vite. Je pense que le modèle de vente qui était assez unique finalement et à savoir concentrer l'attention des consommateurs en très peu de temps, 3 jours, sur une offre hyper attractive qui est unique, qui ne trouve pas ailleurs, était assez convaincant pour...
Ça marchait par bouche à oreille. Comment ils ont su, les gens? Comment vous avez fait pour vous faire connaître quand même? Parce que faire une croissance aussi rapide, ça suppose que tout le monde te connaît, ou en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a aussi une chance énorme qui était un peu le démarrage de Facebook. Mm-hmm. On était une des premières marques à vraiment se positionner sur Facebook à ce moment-là. Et il n'y avait vraiment pas de concurrence. Donc, on a pu vraiment communiquer à fond sur Facebook à ce moment-là pour faire connaître notre offre. Et ça s'est un peu décollé comme ça.
Vous revendez MyFab à une branche de Kering, PPR à l'époque. Et tu pars faire un tour du monde. Et finalement, tu pars faire un tour du monde d'une année à peu près,
oui,
pour prendre l'air. Et finalement, tu te poses à Londres. Et là, en novembre 2009, tu crées donc ta deuxième société, Made.com. Alors cette fois, comment est venue l'idée?
En sortant de MyFab, donc tout est arrivé assez vite. Bien sûr, là, j'ai eu ma première sortie. C'était un peu d'argent, pas énormément d'argent, mais j'ai eu suffisamment d'argent pour me dire maintenant, je vais payer les pensions de mes parents.
Ah, c'est là que tu as commencé
j'ai
à
rembourser.
J'ai aussi
acheté un appartement, donc pour d'abord la sécurité, et puis ensuite il a fallu le meubler. Donc j'ai eu l'expérience personnelle d'acheter un canapé, enfin les meubles, et c'était un canapé qui coûtait, je me rappelle, 3 000 à 4 000 euros. Donc c'était beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris une photo sur mon BlackBerry et j'allais le payer. Donc sauf avant de payer, je me suis dit je vais quand même demander à quelqu'un. Donc c'était un ami de mon enfance qui a grandi avec moi dans le sud de la Chine, à Foshan. Et je sais qu'il allait prendre l'usine de ses parents qui faisait des meubles. Donc je dis, qu'est-ce que tu penses de ce canapé? Est-ce que c'est la bonne qualité, etc. Il dit, mais attends, laisse-moi vérifier. Il est revenu vers moi, il dit, c'est nous qui produisons ce canapé. Il savait pas à qui il vendait, parce qu'il vendait à plus des importateurs qui revendaient à la marque. Mais j'étais curieux, mais à quel prix tu as vendu à l'importateur? Donc, il m'a dit 250 dollars, un truc comme ça. Donc, c'était un multiple.
Tu dis qu'il y avait quand même une grosse différence.
C'était 15 fois, c'était fois 10, fois 15. Énorme. Évidemment, j'ai acheté auprès de lui, en direct. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de business à faire à ce moment-là, sur Internet? Et à travers MyFab, j'ai déjà vu que le vertical de vente en ligne de meubles, même sans marque, pouvait réussir, parce que les gens étaient déjà prêts à payer des sommes assez importantes pour acheter des produits quand il y a un rapport qualité-prix intéressant. Donc on est parti sur la levée de fonds, etc. Et beaucoup de VC ne croyaient pas que les gens allaient vraiment un jour payer 500 euros et 1000 euros sans toucher et voir le produit. Et moi, j'avais la conviction, mais aussi surtout un peu d'insight à travers mon expérience précédente, que les gens allaient le faire.
Donc le succès est fulgurant, hein, Made.com, enfin Made.com, tout le monde connaît, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent l'ont utilisé. En 2017, tu quittes ta fonction de vice-président du conseil d'administration, mais tu restes un actionnaire important. Et en 2021, tu vis de très près l'entrée en bourse de Made, qui est alors valorisée 500 millions de dollars. Tu as quel sentiment quand Made devient public? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant? Tu t'étais dit, bon, ça va être la suite?
Alors, donc moi, mon rôle, c'était... J'ai géré cette boîte jusqu'à... Donc, comme en 2017, quand la marque réalisait 100 millions de chiffres d'affaires et c'était à peine rentable. Et la société allait jusqu'à faire 500 millions de chiffres d'affaires. Donc, quand la société s'est introduite en bourse pour 1 milliard de dollars, c'était une partie de parcours où j'ai suivi un peu de loin en tant que fondateur, mais c'était aussi une partie de parcours que je me suis dit, j'ai été très bien pour la première partie, donc 0 à 100 millions. Je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien toucher l'essentiel.
De 0 à 1. Ouais.
Mais à partir de 100 millions, j'ai trouvé que c'était quand même une vie très différente, à l'époque en tout cas, qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai demandé à notre CEO à l'époque, Philippe, de prendre la suite, et ce qui m'a permis de rentrer en France et suivre un peu l'affaire de loin. Ça, c'était une décision rationnelle, mais même Après, sur le plan émotionnel, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se détacher d'une boîte que tu as créée et de dire, bon, voilà, tu gères pour moi. Mais je pense que la distance, ça pourrait aider parce que Made.com était à Londres et je suis rentré physiquement à Paris. Ça m'a permis aussi de prendre un peu de distance et puis de réfléchir à une autre aventure.
Mais tu es resté quand même intimement lié justement à Made, justement après même après cette entrée en bourse, Stéphanie.
Oui, mais un an et demi après l'IPO de Made, le groupe enchaîne les difficultés pénalisées par la baisse de l'inflation, par la baisse de la demande liée à l'inflation et aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En novembre 2022, faute d'avoir trouvé de nouvelles sources de financement, Made est placé sous administration en vue de sa liquidation. Et même si vous aviez quitté l'entreprise en 2017, hein, vous l'avez dit, vous proposez à trois reprises de racheter Made hein, pour sauver le business et l'emploi. C'est ce que vous avez expliqué hein, sur un post LinkedIn hein, à ce moment-là. Proposition qui est refusée par le conseil d'administration. Et finalement, c'est le groupe Next, le groupe britannique Next, qui rachète la marque, les noms de domaine, la propriété intellectuelle de Made.com, montant de l'opération 3,9 millions d'euros.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à sentir que ça allait moins bien et que l'entreprise allait mal et que tu n'étais plus là? Est-ce que tu as ressenti plutôt une forme d'impuissance Bon, là, tu as essayé de sauver, clairement. Est-ce que tu as une culpabilité? Comment ça se passe, justement, quand tu vois ton bébé qui a des difficultés?
Oui, je crois que quand on crée une marque, c'est presque un enfant qu'on donne naissance au monde. Et de le voir quitter la maison et ensuite avoir des difficultés, c'est bien sûr, ça nous touche émotionnellement et personnellement. Et à ce moment-là, j'ai suivi en fait tout l'essor, mais aussi la descente de la marque. Et la question qui m'a traversé l'esprit, c'est quel est mon rôle dans cette histoire? Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer après que cette marque ait rencontré des difficultés? Est-ce que je peux la retourner? Est-ce que je peux la redonner un second souffle? Et mon constat de ce moment, en fait, c'était que quand la société avait fait l'hypercroissance et on avait beaucoup focalisé sur la croissance, mais pas forcément le process et la simplicité de l'opération. On avait, bien sûr, il y avait des conjonctures externes, il y a aussi beaucoup de difficultés internes. Je pensais que probablement en reprenant la société et en remettant tout à zéro, j'aurais pu lui donner une seconde chance. Évidemment, la loi anglaise de reprise d'entreprise étant un peu différente, puisque mon offre comportait notamment une sauvegarde de 100 emplois, rembourser 30 millions d'euros de clients. Mais en Angleterre, en fait, toutes ces considérations-là étaient beaucoup moins importantes que le cash que vous mettez sur la table. Et moi, je n'avais pas toutes les ressources pour payer tout le cash que l'administrateur demandait.
Sacrée histoire. Et on a justement une petite surprise pour toi. On a une petite question de quelqu'un que tu connais très, très bien. Attention, la question est très courte. C'est une question de Brent Oberman, justement, pour toi.
Qui t'a plus enseigné dans le monde d'affaires, Marc Simoncini ou moi?
C'est dur hein, comme question.
Sacrée question.
C'est pas facile. C'est court, mais c'est efficace.
C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu Marc Simoncini et ensuite Brent Oberman, tous les deux en mentor et puis en associé. Donc, pour quelqu'un qui est venu d'une famille moyenne dans le sud de la Chine, nobody, je pense que j'ai eu beaucoup de chance déjà d'arriver en France et puis d'être associé avec ces grands entrepreneurs-là. Marc, il m'a donné envie d'entreprendre. Il m'a dit « qui tente rien n'a rien ». Donc, je me suis lancé vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en observant Marc au quotidien. Brent, il m'a quand même donné cette opportunité de m'installer à Londres, mais il m'a surtout ouvert aussi les yeux pour le marché anglais et puis tous les talents là-bas. Donc, c'est...
Très bien. Donc, ils t'ont tous les deux apporté énormément. Et depuis 2018, donc, tu as lancé une troisième aventure. Typology, une marque responsable de cosmétiques qui est basée à Paris, donc qui est vendue, elle aussi, 100% en ligne sur typology.com. Comment t'es tombé dans le monde des cosmétiques? Comment c'est arrivé?
Alors, quand je suis entré en 2017 en France, J'avais pris un peu de distance avec Made.com, donc j'avais beaucoup de temps ici. Et donc, moi, je me suis marié, j'ai eu une fille. Et ma femme, après le congé mat, retournait au bureau. Donc, je me suis trouvé homme au foyer. C'est moi qui étais en charge de tous les achats du foyer. J'étais en charge notamment d'acheter toutes les couches. À un moment, j'étais allé acheter les crèmes pour ma fille qui faisait un peu d'eczéma. Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la cosmétique. Donc, il se trouvait que je me suis pointé à la pharmacie de la République. Il y avait 200 crèmes et j'étais vraiment incapable de faire le choix parce que je n'étais pas vraiment intéressé jusqu'à là. Et quand finalement, j'ai pris un pot de crème sur le conseil du pharmacien et je suis rentré à la maison. Donc, je me suis dit quand même, j'ai envie de connaître un peu ce que c'est dans cette crème puisque je suis de nature un peu sceptique. Et j'ai retourné le pot de la crème, j'ai commencé à lire tous les ingrédients. Et c'est là où je me suis un peu fait. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est tous ces noms que j'arrivais pas à prononcer. Donc, quand j'ai fait la recherche sur Google, et je suis tombé vraiment sur les articles, les forums, toutes les informations qui disent les dangers de certains ingrédients et les bienfaits de d'autres. Et ça m'a vraiment pas du tout rassuré. Et j'ai commencé à demander un peu autour de moi, mes amis. Et il se trouve que la plupart de mes amis, avec ou sans enfants, ils ont tous la même question. C'est-à-dire, est-ce que le produit que j'achète pour manger, mais aussi pour mettre sur mon corps, est vraiment bien? Est-ce qu'il y a des conséquences de santé à long terme? Et en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, probablement, il y a une opportunité ici à créer une nouvelle marque, mais en posant vraiment les bonnes bases de formulation, avec une éthique de formulation qui est très stricte, en écartant tous les ingrédients qui sont controversés et dangereux pour la santé et pour l'environnement, avec un packaging qui est recyclé, recyclable, parce que le monde de cosmétiques et de consommation est très, très polluant, et créer aussi une marque qui est vendue en ligne, donc un secteur que je connaissais suffisamment bien pour me sentir confortable de me lancer. Et c'est devenu un peu la marque qui est aujourd'hui Typologie.
Donc 100% en ligne, lisible, compréhensible, on comprend ce que ça fait. Mm-hmm. Responsable justement, parce que lisible, donc tu es obligé de bien montrer ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences entrepreneuriales et qu'est-ce que tu fais différent aujourd'hui avec Typologie par rapport à tes expériences d'avant?
Je pense que quand j'ai créé ma première boîte, MyFab, j'étais encore dans ce. Je pense que mon objectif à ce moment-là, je t'ai dit enfant unique, pression de sécurité, mais surtout de pension alimentaire pour mes parents. Mon but était presque de trouver le plus d'argent possible, le cash. Donc, quand il y avait le premier offre de rachat arrivé, c'était. Je l'ai prise parce que c'était le but. Ouais. Voilà, très bien. Je pense que ma motivation a un peu évolué aussi à travers Made.com jusqu'à présent. Et ma perspective aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... j'ai envie de construire quelque chose beaucoup plus sur le long terme. Typologie, qui est une société que j'ai créée au sein d'un projet qui s'appelle Coupe Brands. Je le vois un projet à 50 ans, puisque créer une belle marque, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et je pense qu'un entrepreneur qui a une perspective de temps beaucoup plus longue que quelqu'un d'impatient, ça peut être beaucoup plus puissant, surtout sur long terme.
Donc ça repose sur quoi une marque qui doit durer longtemps par rapport à une marque qui potentiellement passe plus vite?
Ça veut dire que toujours prioriser les décisions pour la marque avant le chiffre d'affaires. Par exemple, on n'a jamais fait une solde, on n'a jamais donné un seul code promo, donc on n'a jamais voulu stimuler le chiffre d'affaires au détriment d'une image de marque, mais aussi d'une croissance plutôt à long terme pour le compte de court terme.
Et le résultat, c'est que Typologie est très, très bien partie. C'est le moins qu'on puisse dire, Stéphanie.
Effectivement, cette stratégie porte ses fruits. Hein. 3 ans après son lancement, Typologie devient à ce moment-là la marque skincare la plus vendue en ligne en 2021, selon le cabinet Fox Intelligence. La stratégie 100% digitale porte ses fruits grâce aux avis clients, aux influenceurs, mais aussi aux bouches à oreille. Typologie est présente dans 6 pays aujourd'hui, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et la marque compte plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Donc comme pour Made, tu es parti d'un besoin personnel en fait. Hein, c'est-à-dire que sur made.com, c'était l'histoire du canapé. Sur typologie, c'est l'histoire de pas comprendre comment fonctionnent les produits, donc tu veux que ce soit beaucoup plus clair. J'espère que tu vas nous partager ça un jour dans un livre, si tu trouves le temps d'écrire un livre, mais faut partager ton expérience. Parce que là, on le fait dans Les Pionniers, c'est très bien. Mais c'est bien aussi d'aller peut-être rentrer dans le fond des sujets, surtout quand tu parles de culture et de marques qui durent. Je pense que ça intéresse énormément toute la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et avant de terminer, on a encore une petite question de Brent Oberman.
Ah, ok.
Ning, est-ce que Typology est l'entreprise de ta vie ou tu penses en créer plein d'autres?
Ah, elles sont toujours courtes, les questions de Brent, mais elles sont au bon endroit.
Ouais. Délicat, parce que Brent est aussi un investisseur, donc ça...
Alors, Typology, l'entreprise de ta vie ou bien une avant la prochaine?
Je pense que j'ai certainement une perspective beaucoup plus longue. Je t'ai dit 50 ans, c'est la perspective de l'entreprise. Est-ce que j'irai jusqu'à là à dire c'est l'entreprise de ma vie et que je n'en ferai pas d'autres? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on a créé Typology au sein d'un projet qui s'appelle Kubrands. Donc, c'est le projet consiste à créer non seulement pas une marque, mais plusieurs marques, pour en racheter. En tout cas, c'est le rêve un peu qu'on se donne pour.
Et donc, good brands, donc ça définit aussi la culture. Tu veux des bonnes marques.
C'est ça.
C'est quoi une bonne marque?
Je pense que, franchement, dans la cosmétique ou dans la lumière de la consommation, il en manque pas de marques. Il y a plein de marques. Et si on doit en créer aujourd'hui, autant qu'elles soient dans les valeurs et dans l'éthique du jour. Donc, responsable, des bonnes gouvernances. Et les marques qui sont respectées et aussi respectables de l'environnement et de l'humain.
Merci beaucoup, Ning, pour ce partage d'expérience.